Eric Meyer, bonjour.
Bonjour à vous.
Alors après Bon chat chinois prend la souris en 2008, vous publiez aujourd'hui 100 drôles d'oiseaux de la forêt chinoise aux éditions de l'Aube, fruit de vos 25 années d'observation de la société chinoise de l'intérieur. Comment avez-vous travaillé pour faire ce livre ?
Eh bien, en fait, il s'agit de chroniques que je détecte dans la presse chinoise ou détecte auprès d'amis chinois qui me les racontent chaque semaine et que je place dans ma lettre circulaire pour les expatriés de Chine ou pour ceux qui s'intéressent à la Chine qui s'appelle « Le vent de la Chine ». D'ailleurs, il y a un site internet levendelachine.com. Et donc chaque semaine, je rédige une chronique. Et cette chronique a un aspect philosophique. Si la lettre a pour intérêt de parler de politique, d'économie ou de social, finalement, le client final et la finalité ultime de toute entreprise d'expatriés en Chine, ce sont les Chinois. On travaille pour eux et pour la collaboration et pour la compréhension entre nos peuples. Et certains s'occupent de vendre du verre, d'autres vendent des voyages en avion, d'autres vendent tout ce que vous voulez ou produisent industriellement. Mais finalement, nous avons tous le même client que nous ne voyons jamais et qui est le petit peuple chinois. Et ce petit peuple, c'est nous aussi. Nous sommes le petit peuple français. Nous sommes des gens avec une destinée, des individus, des grains de sable dans un désert. La totalité des grains de sable fait le désert. J'ai voulu raconter les grains de sable pour décrire la société chinoise d'une manière non intrusive, d'une manière agréable, gentille, compréhensible à tous et qui ne soit pas de style tour d'ivoire avec une très grande thèse sur ce que la Chine est ou n'est pas. Il s'agissait enfin aussi de réconcilier, car la Chine ne sait pas s'exprimer, ne sait pas s'expliquer dans le monde. Elle est un petit peu autiste, cette Chine, autiste. Elle est un petit peu, pas hautaine, mais prisonnière de son passé et bien entendu de son système politique qui n'est pas exactement libéral ni démocratique. Alors, nous, on leur en veut, nous, Français, parce qu'ils nous prennent nos emplois. Et donc, on ne voit que ces gens qui s'expliquent pas, qui vont de l'avant, qui nous prennent nos emplois et tout. Et donc, on dit que c'est pas des gens fréquentables. La réalité, c'est qu'il y a un petit peuple chinois là derrière, des gens truculents, des gens accueillants, des truands, des menteurs, des gens qui se sont fait avoir par d'autres, des victimes éternelles. Il y a de tout. C'est pour ça que j'appelle le livre « 100 drôles d'oiseaux de la forêt chinoise ». Dire que la Chine est une jungle et qu'il y a toutes sortes de bestioles là-dedans, et je vais vous les montrer.
Donc les bestioles, ce sont les Chinois. Sur quels critères choisissez-vous vos histoires ?
Il y a deux critères. Il y en a un, c'est celui de la bizarrerie absolue. Même pour les Chinois, ce qui se passe dans mes histoires, c'est pas des choses normales. Ça n'arrive pas tous les jours. Vous pourriez trouver, par exemple, l'histoire d'un garçon qui se fait arrêter en pleine autoroute par des bandits qui le séquestrent dans un hôtel pour lui faire payer ses dettes. Il avait des dettes. La personne qui, le créancier a loué les services de la mafia qui les met dans un hôtel et lui dit, t'as 3 jours ou sinon on va soit te couper un doigt, soit, ou quoi. Enfin, en tout cas, t'es plus libre. Et le gars trouve le moyen de se libérer de ses liens sur le lit où il est attaché. Il sort du lit alors que son gardien dort et il commence à descendre à un demi-escalier. Et qu'est-ce qu'il voit ? Un autre gardien en dessous qui surveille et qui le voit et qui commence à le poursuivre. Alors il remonte et il monte le demi-escalier en dessous et il voit un autre gars qui commence à descendre en le poursuivant. Et là où il est, sur le palier, il y a une fenêtre et en face, il y a un pylône de 12 mètres de haut et en haut du pylône, une énorme publicité géante. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de sauter sur la publicité géante à 12 mètres de hauteur. Et à ce moment-là, les bandits sont dans l'hôtel et lui font « Petit, reviens, tu peux rien faire, tu vas mourir, c'est tout, donc tu reviens. » Et lui, il a trouvé la chose pour se sauver qui est, il crie en bas en disant « Je veux me suicider ». Et les Chinois, d'une manière ou d'une autre, l'esprit un peu mal tourné, ils adorent ça. Ils se réunissent à 200 pour voir le gars qui va sauter et faire le grand splash par terre, quoi. Mais à ce moment-là, les bandits terrorisés se sauvent. Et lui, il a gagné sa journée, quoi. Il est libre grâce à cette traquenard qu'il a inventé. Cette histoire n'est pas dans ce livre-là, dans un autre livre, mais c'est tout à fait le genre d'histoire, l'aspect extraordinaire, vous voyez. L'autre critère, c'est que je veux pas écrire d'affaires monstrueuses, de meurtres, d'assassinats, de, si on vole, je veux bien qu'on vole, mais il faut que ce soit avec classe, avec défi. Comme par exemple ce millionnaire patron d'une usine qui s'est fait lui-même, qui est ultra riche et qui a besoin du sentiment du danger en escaladant les murs pour aller voler chez les autres. Et il n'a pas besoin de l'argent de ce qu'il vole du tout, c'est juste pour le sport. Et bon, c'est totalement mal vu, je veux dire, c'est pas bien et je suis pas d'accord pour ce qu'il fait. Par contre, je trouve que ça mérite d'être raconté comme une monstruosité. Son vrai problème n'est pas de gagner de l'argent, son problème c'est de dépasser sa peur d'enfance ou d'arriver dans des aventures dangereuses. Il a besoin de ça pour vivre, cette adrénaline, et donc il se jette dans ce genre d'aventure-là, et ensuite il ira en prison pour ce qu'il a fait, puis après il sera, je l'espère pour lui, plus ou moins guéri.
Comment décrypter la société chinoise quand on est français avec souvent une tendance à l'ethnocentrisme ?
D'abord, il faut quelques années pour se débarrasser de cet ethnocentrisme. L'ethnocentrisme signifie que du fait de nos technologies et du fait de nos droits de l'homme, nous sommes supérieurs aux Chinois. Et moi, ça m'a pris 7 ans pour découvrir que c'était pas le cas. On n'est pas non plus inférieurs du tout. Et les mêmes Français qui se sentaient supérieurs il y a 15 ans, aujourd'hui, ils se sentent à moitié inférieurs ou furieux, ou en tout cas, ils ne voient plus leur propre avenir parce que les Chinois sont en train de gagner trop de parts de marché. Et ça, c'est le défaut inverse. Il faut croire en soi. Il faut croire en un avenir pour nous, même dans les moments difficiles. Et d'ailleurs, je vous signale, c'est ce que les Chinois ont fait pendant 150 ans. Ils sont pas arrivés tout de suite à remonter la pente, y compris la pente de Mao, des guerres civiles, des Japonais, et tout ça, ça a été très très dur. Donc, il faut commencer par renoncer à son ethnocentrisme. Et ensuite, ça va tout seul. Si vous décrétez que le Chinois est votre frère, ou votre cousin germain, ou un être humain comme vous, vous voyez que un homme qui a, je sais pas moi, par exemple, pas fait l'amour pendant un mois, ça commence à le travailler très dur quelque part. Ben, le Chinois, pareil, il va au boulot à 9 heures du matin dans un bus bondé, comme ça arrive en France. Il a un petit déj, il va manger à midi. Il peut avoir peur du patron, il peut adorer la fille du voisin. C'est des histoires parallèles. Ça nous ressemble. Alors si vous acceptez de faire jouer ces parallélismes, vous allez très vite vous sentir des connivences avec ce peuple.
C'est vrai, ces connivences, on les voit bien dans votre ouvrage, qui d'ailleurs constitue à la fois une revue de la presse chinoise et un dictionnaire des proverbes populaires en situation.
Oui, alors les proverbes, là, ça vient de loin. C'est un peu une vision philosophique que j'ai des choses. Je crois qu'en écrivant le livre en langue française pour les Français, j'affirme que la France elle-même regarde la Chine et décrète que ce peuple est notre frère ou notre voisin, ou il participe de la même espèce humaine que nous, quoi. Voilà. Il y a une connivence qui est liée à l'idée de distance. Nous avons un paramètre de la distance. Nous avons un autre paramètre qui est celui de la crise dont j'ai parlé il y a un instant, de l'aspect de crise à dépasser, de se dépasser soi-même pour se dépatouiller d'une situation difficile. Et cette crise à l'état pur, c'est comme un espèce de cristal qui résume le génie chinois dans ce cas-là. Et le troisième paramètre, c'est le proverbe. Pourquoi ? Parce que autant le français dit « moi, depuis ma distance, je vois que le chinois a un air de famille avec moi », eh bien, le proverbe, lui, il a 500 ans, vous voyez. Et ce sont les ancêtres du même chinois qui dit « je vois un air de famille avec toi ». Là, c'est plus la distance qui joue, c'est le temps. C'est l'autre paramètre d'un cube tridimensionnel, la crise, la distance et le temps, vous voyez. Et ça me prouve à moi que, par exemple, Mao a perdu la partie. Le communisme a fait tout ce qu'il a pu pour créer un homme socialiste chinois, une nouvelle espèce humaine ou quoi, et pour prétendre aujourd'hui encore que d'une manière ou d'une autre, la Chine fait partie d'une espèce différente de nous, plus ou moins supérieure, quoi, c'est ce que croient certains leaders chinois. Eh ben, c'est faux. Ils sont les mêmes qu'il y a 500 ans, et ce sont leurs ancêtres qui leur disent à travers leurs proverbes. Et donc, dans mon livre, à travers mon livre.
Et d'ailleurs, vous écrivez dans votre préface que la révolution socialiste n'est qu'une vague qui crée l'écume sur la mer avant de venir mourir sur la grève sous la lune. Et donc, vous précisez à ce propos que c'est comme si la société chinoise d'aujourd'hui n'en finissait pas de puiser dans ses traditions tout en regardant vers la modernité.
Oui, il y a de ça. C'est, à vrai dire, je suis obligé de rectifier un tout petit peu le tir pour dire qu'il regarde surtout vers la modernité et moins vers son passé, parce que le passé a été extrêmement éradiqué, nettoyé, découpé au karcher, au lance-flammes, à tout ce que vous voulez, pendant la révolution culturelle. Donc ce sont des gens qui, en tout cas il y a 20 ans, se réveillent avec un désir absolu de manger, de boire, de prendre des parts de marché, de se relever, d'être fiers. Et c'est en cela qu'il nous dérange, parce que comme une nation émergente, pleine de feu, il rencontre une nation comme la nôtre qui est plus ancienne, plus assise, un peu plus tassée, et qui a perdu ce feu qu'elle avait en 1900 par exemple, ou peut-être encore en 45 à la libération, mais maintenant après les 30 glorieuses, après un gros demi-siècle en fait de richesse et de bien-être, ben on est quand même un petit peu émoussé en ce qui concerne le désir de vivre. Vous voyez, et la Chine, elle est au début d'un cycle nouveau. Mais pour nous, ça doit être au contraire une grande raison d'espoir, parce que les sociétés, y compris l'européenne, la française, elles procèdent par cycle. Si un jour vous êtes en bas, le lendemain vous serez en haut. Chacun son tour. Pour le moment, les Chinois, ça va bien pour eux. Et encore, je me demande si ce sera pour très longtemps. Mais ça ne veut pas dire que nous, on est fini.
Et puis pour eux, ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez d'ailleurs contextualisé historiquement chaque saison, dans votre livre, de l'été 2006 à l'hiver 2008. C'est une manière de rappeler qu'en Chine comme ailleurs, la petite et la grande histoire se rejoignent.
Oui, c'est exact. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de ce livre « Bon chat chinois prend la souris », qui était d'ailleurs précédé par un autre exactement du même type et qui s'appelait « Voir la Chine du haut de son cheval ». Eh bien, chacun de ces livres présentait les histoires rassemblées non pas par époque, mais par thème. Donc, j'avais mis, par exemple, les livres sur la femme, les histoires sur la femme, l'enfant, l'amour, le banditisme, les vieillards, le rapport avec l'animal, le cadre du parti, des choses comme ça. Cette fois-ci, j'ai décidé de le faire autrement et de le rassembler exactement par période, c'est-à-dire au moment où il a été publié dans mon vent de la Chine, et aussi à peu près au moment où ça s'est produit, parce que toutes ces histoires sont d'actualité. Elles arrivent dans la presse, elles se produisent à peu près 3 à 6 semaines après que... je les écris 3 à 6 semaines après qu'elles se soient déroulées. Donc, dans ce cas-là, j'ai trouvé que c'était intéressant de tenter un petit renouveau pour montrer que chaque saison de Chine, comme de France d'ailleurs, ou comme d'Europe, a son génie ou son esprit ou son âme propre. C'est pas seulement parce que c'est du printemps ou de l'été ou de l'automne ou de l'hiver, mais c'est parce qu'il s'y passe des choses mondiales ou locales, des choses de bonheur ou de malheur, qui fait que tout le monde se sent lié par ce climat ou par ce décor mental. Donc, à chacune de mes saisons, il y en a donc 10 chapitres, 10 saisons, 10 saisons de 3 mois, eh bien, je vais décrire quelques phénomènes, quelques actions, quelque chose qui se sont passées en Chine à ce moment-là. Et si vous lisez mon livre, si vous l'avez entre les mains, vous verrez ensuite que les histoires ont toutes un petit rapport indirect, confus, inconscient, avec cette page d'introduction. Et on voit que tous les gens de Chine ont été influencés par ce qui leur arrivait à ce moment-là, et leurs réactions en ont été elles-mêmes teintées.
Alors, on a parlé des thèmes principaux des ouvrages précédents, mais cette fois-ci, vous avez d'ailleurs regroupé les thèmes dans un index. Vous n'avez pas présenté par chapitre, mais dans un index. Alors moi, j'ai relevé les jeunes, les femmes, l'écologie, le parti unique, la superstition, la démocratie, la paix, la censure, et puis il y en a encore des centaines d'autres. Est-ce qu'il y a une évolution dans les thèmes entre ce dernier ouvrage et les autres ?
Bien sûr, la Chine est un pays qui évolue beaucoup plus vite que l'Europe. Et puis c'est tout à fait normal qu'elle fasse comme ça, parce qu'elle part de beaucoup plus bas. On parle d'une Chine avec la roue en bois il y a 25 ans, ou la roue à aube, ou peu d'électricité, pas d'industrie, des choses comme ça. Maintenant, tout le monde a son iPhone, etc. Donc ils vivent à la vitesse de la lumière. Donc tous les 3 ans, il y a des choses qui arrivent aux Chinois qu'ils ne voyaient pas avant. C'était déjà là, mais ils n'avaient pas les moyens théoriques de les voir. Je peux parler, par exemple, de la psychologie ou de la psychanalyse. Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était. Ils étaient contre. Peut-être on peut parler aussi de choses comme la réalisation de l'homosexualité, qui a toujours été là en Chine, comme dans tous les pays du monde. Mais elle était tellement refusée, repoussée, qu'on ne se rendait pas compte même qu'on était homosexuel. On croyait qu'on était simplement malade, par exemple. Hein. Mais la sexualité toute simple, bien entendu aussi. Je me souviens qu'en 1987, quand je suis arrivé, je vois une jeune fille à bicyclette, et un grand coup de vent lui fait voler ses jupes, mais on aurait dit une tulipe avec les pétales autour de la tête, quoi. Donc on voyait les jambes entièrement dénuées et la petite culotte toute blanche. Et moi, ça m'a, en tant qu'homme, ça m'a fait un certain flash, une émotion sexuelle très, très légère, mais très, très, très claire. Et immédiatement après, à la seconde suivante, j'ai regardé mon voisin, un Chinois, il voyait la même chose que moi. Et ben, évidemment, il y avait rien du tout. C'était électroencéphalogramme sexuel plat. Il n'avait pas cette culture. De même qu'à l'époque, par exemple, vous n'aviez pas non plus la culture de boire du lait ou de manger des produits laitiers. Si vous essayiez, ben vous étiez malade, parce qu'on n'avait pas les enzymes dans le corps. Ben, d'une certaine manière, il y avait des tas d'enzymes qui manquaient. Donc, en gros, on voit arriver maintenant comme chose nouvelle, évidemment, l'informatique, l'électronique, la culture de l'électronique. Et depuis 2 ans, Weibo, qui est le Twitter chinois, c'est invraisemblable. Le Parti communiste n'arrive plus à maintenir la censure. À cause de Weibo, tous les gens arrivent à se rassembler pour faire une manif à tel endroit, ensemble, et la police ne peut pas les empêcher, parce que si on bloque le Weibo, ben on bloque aussi, par exemple, 40 millions de mini-CV par Twitter que les jeunes envoient pour avoir du boulot. Alors, il faudrait savoir ce qu'on veut. Ou bien on laisse passer les CV, il y a de l'économie, mais alors, il y aura en même temps de la dissidence et des critiques du gouvernement. Eh ben, il n'a pas le choix. Il grince les dents, mais il le fait quand même. Parce que c'est encore plus rentable pour lui de laisser les 40 millions de jeunes avoir du boulot que de couper la chic à toutes les dissidences du pays.
À propos d'évolution, vous avez une histoire intéressante de travesti. Ce travesti, ce jeune homme qui cherchait du travail, qui voulait être comédien. Et puis finalement, par hasard, il est engagé pour une émission de télévision. On lui demande de jouer le rôle d'une femme. Et à ce moment-là, il fait exploser les coups de téléphone des fans.
C'est tout à fait.
Voilà.
Et en fait, il avait envie de faire carrière comme artiste, comme acteur. Il se voyait bien en Belmondo ou en Alain Delon ou des gens comme ça, quoi. Mais finalement, on finit par lui donner un job de femme. Ce qui, au passage, aussi bien en Japon, dans le kabuki, qu'en Chine, est tout à fait courant. Hein. C'est tout à fait accepté, l'homme déguisé en femme, y compris les conséquences sexuelles qui suivent ensuite. C'est tout à fait typique et normal dans la culture locale. Mais alors, bref, il obtient un succès fou et immense en talons hauts, habillé en geisha chinoise, quoi, en quelque sorte. Et il gagne de plus en plus de notoriété, d'argent. Il arrive à faire carrière en tant que femme. Le seul souci immense qui va lui arriver, c'est que sa petite copine, elle en a vraiment marre. Elle a dit, t'es encore plus femme que moi. Je m'en vais, au revoir, adieu. T'as qu'à te trouver des loulous ou d'autres filles ailleurs. Mais moi, j'en ai soupé. Voilà.
J'ai trouvé que cette histoire était assez amusante sur la manière dont la société évoluait, parce que j'imagine qu'il y a 50 ans, on n'aurait pas pu voir ça.
Il y a des exemples durant la Révolution culturelle ou avant. C'est cité par Jean Pasqualini, prisonnier de Mao, dans le camp de prisonniers où il se trouvait, le camp de travail où il se trouvait. Il y a un homosexuel qui avait, pour la deuxième ou troisième fois, couché avec un prisonnier pendant la nuit et qui s'était fait attraper. Et il est condamné à mort et exécuté devant tout le monde, quoi.
Ah oui, ça badine pas, effectivement. Alors justement, on parle beaucoup d'amour, évidemment, on parle d'argent, mais il y a aussi pas mal de violence, parce qu'il y a de la bagarre, il y a de l'alcool. C'est une société où on règle ses différends un peu avec les mains, parfois.
Vous faites allusion à quelle...
Oh, je ne sais plus quelle histoire, mais ça m'a, ça, c'est un fil, finalement, sur toutes les histoires.
Ben, c'est-à-dire que c'est une société qui... cache sa violence. Donc on va croire que la société chinoise est une société harmonieuse, c'est ce que dit le président Hu Jintao, mais la réalité c'est que vous avez par exemple 30% des couples où il y a de la violence physique, et bien entendu c'est la femme qui trinque, mais parfois dans un cas sur 10 c'est la femme qui frappe l'homme. Les vieillards, non, ils ne frappent pas, mais les pères frappent leurs enfants, surtout à la campagne, surtout si c'est une fille. Et je crois que vous avez 5 millions d'enfants qui sont en permanence en rupture de ban, qui sont inconnus à leur adresse, qui se sont sauvés. Effectivement, il y a une forte violence. Je pense que derrière cette violence, vous avez une absence de communication. Et si la Chine commence à communiquer avec elle-même, elle rentre dans la démocratie à ce moment-là. Et donc l'État chinois est coincé entre différentes options qui ne lui plaisent guère, quoi. La violence au foyer, ça lui plaît pas, mais la démocratie, ça lui plaît encore moins. Donc pour le moment, en tout cas, donc ils sont un peu inactifs. Ils n'arrivent pas à trancher ce nœud gordien, quoi.
Alors, les Chinois pratiquent intensément la symbolique des chiffres jusque dans les numéros de téléphone. D'où vient cette pratique ?
Le Chinois est assez un personnage qui peut être assez abstrait et qui peut être assez... comment dire ? Il est très porté sur le symbole aussi, hein, c'est sûr. Il aime aussi beaucoup, il a une adoration pour l'écrit, pour le texte. Pour je veux dire par là que l'année où Jésus-Christ est né, il y a donc plus de 2000 ans, la Chine avait 2000 textes classiques et elle avait déjà des concours d'administration qui sont plus ou moins les mêmes qu'aujourd'hui, où toute personne qui se présentait devait connaître à peu près par cœur les 2000 textes en question. Vous avez aussi toute une cosmogonie où les chiffres sont extrêmement présents. Il y a un auteur qui s'appelle Cyril Javary qui a écrit un livre, il a consacré un livre aux chiffres chinois pour évoquer toute la symbologie à partir notamment des hexagrammes. Le livre des hexagrammes, le fameux Yi Qing, qui permet soit de déterminer quel temps il va faire pour les récoltes ou quel temps, c'est un espèce d'almanach Vermeau qui a 2000 ans, soit de prédire purement et simplement l'avenir des gens et quelle est la chance qui vous attend aujourd'hui et maintenant, quoi. Et ben tout cela c'est dû à un travail des chiffres, à une cosmogonie qui établit par exemple trois niveaux de réalité sur Terre. Vous avez le ciel, la terre et l'enfer en dessous, et un seul être existe qui participe des trois mondes à la fois. C'est l'empereur, ou disons le roi, et le caractère du roi désigne trois traits horizontaux, qui sont bien entendu le ciel, la terre et l'enfer, les lignes d'horizon, reliées par une barre verticale qui est celle de l'homme.
Alors, ce qui est amusant dans l'histoire que vous racontez sur les numéros de téléphone, c'est le jeu avec les onomatopées, le son et l'espèce de... entre le numéro de téléphone qui est affiché pour dire acheter un appartement dans telle tour, et puis le sens qu'on leur donne.
Oui, c'est une de mes premières histoires que j'ai racontées. Là, c'est vraiment une histoire tissée à partir de presque rien, à partir d'une publicité d'un immeuble moderne dans Pékin. Et les chiffres même... du numéro de téléphone de rappel pouvait et devait être interprété de manière à signifier que si vous achetez un appartement là-dedans, qui vous coûtera évidemment une fortune épouvantable, et quand je dis fortune épouvantable, je veux dire 1 million d'euros pour un appartement de 1000 mètres carrés, c'est le top classe de toute la ville de Pékin. Si vous avez ça, vous achetez aussi une chance cosmogonique de cet endroit-là qui fait de vous membre d'un club exclusif des riches et des nantis qui ont réussi, le club de ceux qui ont réussi parce qu'ils ont la bonne étoile, et vous recevez, même si vous ne l'aviez pas dans l'absolu, vous recevrez la bonne étoile avec cet appartement comme le porte-clé avec la clé de l'appartement en quelque sorte.
Et tout ça est induit dans le son des chiffres.
Les chiffres, oui.
Et vous vous rappelez les chiffres ? Parce que je ne sais plus quelle histoire. Je crois que c'est celle-là, voilà.
Oufa, tifa, pa 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 pa. Et oufa, c'est si vous n'avez pas de fortune. Tifa, ça veut dire vous devez au contraire générer cette fortune. Si vous ne l'avez pas, vous la générez. Si vous n'avez pas le droit, vous prenez le gauche. C'est un peu ça. Et ensuite, papa, ça signifie le pétard du feu d'artifice de votre réussite.
Et en français, tout ça fait, en chiffres arabes, 58, 78, 4 x 8. C'est quand même beaucoup moins évocateur. Alors, Eric Meyer, à la lumière de votre longue pratique de la Chine, dans quel état d'esprit vous abordez le 18e congrès du Parti communiste d'octobre 2012 qui entérinera le départ de Hu Jintao et l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante?
Oui, c'est une question politique qui n'a pas un lien direct avec ce livre. Mais par contre, je peux dire que la majorité du petit peuple chinois est épuisé par les prix trop chers maintenant. On triche un petit peu en faisant semblant d'aller bien, mais en fait, on peut pas se permettre. Je vois bien quand je vais au marché le dimanche, les gens, ils achètent pas de la viande. Ils achètent du riz, ils achètent des légumes, ils font très attention. Et encore, ce marché, c'est un marché pour riches. La plupart des gens, ils vont faire 3 km à vélo pour aller dans un marché plus pauvre à la périphérie. L'affaire Beausilaï a montré l'histoire d'un cadre du parti, peut-être le numéro 5 plus important du régime, qui pouvait se permettre de tuer impunément, de voler impunément, d'amasser des milliards d'euros et de les faire sortir de Chine avec l'aide d'étrangers en passant au-dessus des lois. Tandis que l'affaire d'hier, sa femme est jugée et non pas lui. Elle prend la prison à perpétuité, mais en fait, le peuple murmure que c'était pas elle, que c'est un sosie qui a été jugé à sa place, et que donc c'est pas vrai, qu'elle est même pas en prison, c'est juste un acteur. Autrement dit, la confiance dans ce régime n'a jamais été si basse. Et le 18e congrès, on ne nous a rien dit sur ce qu'il allait faire, ni quelles seraient ses options. Vous avez, c'est de la politologie, là je veux pas trop rentrer dedans, mais vous avez deux clans. Un clan qui est pour la loi et pour l'état de droit, et un clan qui est pour le maintien complet des privilèges des petits princes. Et ils sont pas d'accord entre eux sur qu'est-ce qui doit être fait par rapport à la pollution, par rapport à la corruption, par rapport à la sécurité sociale chinoise, qui est un sujet de très grande importance. Il faut que les Chinois aient une couverture sociale maintenant qu'ils sont au travail, et que quand ils auront atteint 60 ans, comment est-ce qu'ils vont vivre au moment où ils n'ont plus le droit de travailler? Ils n'auront pas d'épargne, donc il faut une sécurité sociale, une retraite, quelque chose. Tout ça, ça doit être fait. On a 20 ans pour remplir cette caisse, et donc c'est des problèmes énormes qui sont tout à fait en dehors du sujet de ce livre. Mais en gros, je dirais que pour ma part, ce que je vois, je rentre en Chine après-demain, vous voyez, je vois de l'angoisse partout et une certaine colère aussi.
Allez, pour revenir, pour terminer cet entretien sur le sujet du livre, vous avez évidemment des histoires préférées. Est-ce que vous pouvez nous en choisir une et nous la lire pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche et nous montrer le style de ces histoires du petit peuple chinois?
Eh ben oui, bien sûr. Pour commencer, je dois dire que les proverbes chinois que je cite à chacune de mes histoires sont une manière pour la Chine de penser. Je vous ai dit que c'était celle de leurs ancêtres, c'est vrai, mais elle a aussi une puissance et un aspect drôlatique et truculent et créateur qui, pour ma part, me semble dépasser parfois la créativité même de la langue française par sa capacité de réduction et de contraction des sens pour arriver à l'essentiel en très peu de caractères avec une économie des moyens imbattable. Alors l'histoire que je vais vous lire s'appelle Monsieur Yang ou Yang trompe la mort et il trompe aussi le médecin. Et le proverbe en langue française, il dit « faire de deux pédalos à la fois ». L'idée en français, on dirait avoir le beurre et l'argent du beurre, vous voyez. Mais imaginez un gars ou une fille qui est sur deux pédalos à la fois, qui arrive à pédaler sur chacun des deux pédalos, tout en restant debout d'une manière ou d'une autre, et aller deux fois plus vite, ou avoir deux fois plus de plaisir grâce à ces deux joujoux.
C'est pas facile, vous nous le dites en chinois avant de commencer.
Eh ben, tia ta liang zhi chuan. Donc, dans les années 1990, les hôpitaux chinois ont commencé à pratiquer les greffes d'organes au tiers du prix mondial. Mais avant de voir venir ces touristes chirurgicaux de France ou d'Amérique, il faut la licence du ministère de la Santé, laquelle ne s'obtient qu'en produisant de convaincantes réussites. Donc, en 1998, c'est ce que visait un hôpital de Harbin, au Heilongjiang, avant sa première greffe du cœur. L'équipe des chirurgiens, la direction, craignait un échec qui retarderait leur entrée sur ce marché. Aussi avait-il choisi comme sujet un jeune paysan sans le sou, Yang Yuyong, sous ses conditions généreuses et insolites. L'intervention serait gratuite et pour payer le traitement anti-rejet importé à prix d'or, Yang recevrait 4 millions de yuan par an, c'est-à-dire 400 000 euros. Après l'opération, il devait élire domicile à l'hôpital pour permettre au médecin de tenir à jour un dossier sous surveillance rapprochée. Il servirait aussi de réclame vivante pour le savoir-faire de l'établissement. L'homme acquiesça, topla, le contrat fut signé. Les médecins pensaient faire une bonne affaire. Leur cobaye ne survivrait que quelques mois, quelques années, tout au plus. Mais l'avenir se chargea de leur révéler la vanité de leur pari. Non seulement l'homme récupéra à vitesse record, mais il fut pris d'une fringale de vie. Il apprit à danser, à conduire. De moins en moins, il dédaigna une bonne bouteille à partager, en même temps que ses nuits, avec de fringantes convalescentes. Bouillant sur place, Yang investit le chèque des carabins, sans tenir compte de leur appel à la discrétion, dans une boutique en plein hall d'entrée, où il se mit à vendre au prix fort les paniers de fleurs et de fruits, voire sous le comptoir les cigarettes et les flasques d'alcool blanc aux malades et à leurs visiteurs. Bientôt, en fin de mois, il montrait au chirurgien penaud les liasses de billets d'un profit bien supérieur à leurs émoluments. 6 ans après, voyant leurs profits dévorés par leur ex-malade, les hommes en blanc vinrent en ambassade, tentant de le convaincre d'aller refaire sa vie ailleurs. Ils lui coupaient les vivres et le priaient de déplacer son échoppe à roulettes sur le trottoir d'en face, par exemple. Yang, alors, leur asséna la réplique qu'il affûtait depuis tant d'années et qui les acheva. S'il le faisait, il interromprait son traitement. Sous 3 mois, il quitterait ce monde de douleur, mais non sans avoir averti tous les sites et tous les médias médicaux de la nullité de leurs prestations. Après ça, adieu cardiaque nippon, cirrhose canadienne et cancer des poumons saoudites. Personne ne leur ferait plus jamais confiance, foi de Yang Yugong. Les chirurgiens capitulèrent. Aujourd'hui encore, tandis qu'ils trônent dans le hall d'accueil, ils lui versent sa rente et grommellent que Yang a brouté sur leur dos son sursis de vie, puis sa fortune. En Chine, on décrit ce style d'écornifleur sous une image qui parle d'elle-même, faire de deux pédalos à la fois.
Éric Meyer, merci. Je rappelle que vous venez de lire un extrait de « 100 drôles d'oiseaux de la forêt chinoise », votre dernier ouvrage paru aux éditions de l'Aube.